Marion Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. De plus en plus de femmes réclament une meilleure place dans l'islam. Ces femmes s'estiment complémentaires des hommes, égales devant le divin, et elles se réapproprient leur corps grâce au port du hijab pour participer à la vie en dehors de la famille. Les plus en pointe se définissent comme féministes islamiques. Celles-là revendiquent une égalité homme-femme parfaite et réclament d'accéder à l'imamat dans les mosquées. Bien qu'ils soient encore minoritaires, ce courant se développe parallèlement au conservatisme masculin, surtout dans les pays musulmans d'Asie et en Occident. À suivre également la revue de presse, regard croisé sur Israël et le monde arabe, avec Christian Brunel à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
Nadine Webel, bonjour.
Bonjour.
Anthropologue du religieux, vous êtes enseignante à l'université de Strasbourg. Alors, on vous a écouté cette semaine à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris, aborder la question du féminisme dans l'islam. Ce féminisme islamique que vous évoquez existe depuis longtemps déjà.
Il existe effectivement en islam une forme de revendication féminine que l'on observe depuis, je dirais, la deuxième moitié du XXe siècle. Mais les femmes qui sont concernées par ce mouvement, ou plutôt crypto-mouvement, ne revendiquent en aucun cas le terme de féminisme. Le terme de féminisme désigne un courant plus particulier qui est né dans les années 90, à peu près de manière simultanée et parallèle en divers endroits du monde.
Alors, vous nous dites donc qu'il y a deux formes, en fait, de revendications dans l'islam. Il y a les revendications musulmanes, disons, on va dire, habituelles, et ensuite, des revendications beaucoup plus dures, peut-être peut-on appeler ce terme, qui sont le féminisme. C'est bien cela.
Oui, il y a effectivement deux types de revendications. Maintenant, habituelles, je ne dirais pas, parce que le groupe de femmes, ce crypto-mouvement, cette nébuleuse qui a émergé dans les années 70-80, ce n'était pas quelque chose d'habituel. C'était aussi déjà des attitudes totalement novatrices. C'est donc une nébuleuse que l'on a pu observer et qui se cristallise aussi sur la revendication des droits féminins à l'intérieur de l'islam. Donc, ça se distingue bien d'une forme de féminisme séculier qui existe en terre d'islam, mais qui est très influencé par le féminisme à l'occidental et qui n'a pas ses références dans le religieux, dans l'islam. Ces femmes dont je parle, donc de cette nébuleuse, au contraire, s'en réfèrent exclusivement pour défendre leurs droits aux textes religieux. Alors, il faut savoir que pour ces femmes, le message coranique a apporté aux femmes un statut et un rôle à l'époque qui aurait été totalement novateur. C'est leur discours.
C'est-à-dire qu'elles revendiquent une place qui aurait été la leur au début de l'islam.
C'est tout à fait cela. Et elles auraient été spoliées de ces droits au fil des siècles par les sociétés patriarcales, par l'ordre patriarcal qui régnait dans les sociétés où l'islam s'est développé. Alors, il faut savoir que cette argumentation, donc c'est la base de ces revendications, à la fois de cette nébuleuse, mais aussi ultérieurement de ce qui est appelé le féminisme islamique.
Alors, que revendiquent ces femmes dans l'islam ?
Cette nébuleuse, appelons-la ainsi, revendique en quelque sorte une forme de réappropriation du corps d'abord. Réappropriation du corps qui s'inscrit dans ce qui consiste pour elle en une forme de pilier de la société musulmane. J'en viens à la notion de complémentarité des sexes. Alors, elles admettent qu'il existe une forme d'égalité ontologique des femmes et des hommes devant le divin, mais que en fonction de leurs différences biologiques, les femmes et les hommes sont programmés pour avoir d'autres rôles, d'autres statuts dans la société et au sein du couple. Maintenant, revenons-en à cette nébuleuse dont vous m'avez demandé les revendications. Donc, liées à cette complémentarité, donc, dans un premier temps, une forme de réappropriation de son corps et de sa sexualité. Cela signifie, disons, avoir la liberté de vivre son corps comme le message coranique le préconisait. concrètement, pour cette nébuleuse, il s'agit d'avoir la liberté de couvrir son corps. De couvrir son corps par le vêtement rituel, le vêtement halel, le fameux hijab, hein, qui ne dévoile du corps féminin que l'ovale du visage et les mains. Ceci étant, disons, le symbole d'une forme de frontière entre les femmes et l'extérieur de la société. Les femmes n'étant plus considérées, selon elles, hein, comme des objets sexuels, elles peuvent donc reconquérir certains espaces, comme la rue. Puisqu'elles ne sont plus de tentatives pour les hommes, il y a une forme de désérotisation de la société, et cette désérotisation de la société et du corps féminin permet en quelque sorte à la société de ne pas être dans une forme de chaos social.
Vous voulez dire que le port du hijab est une façon aussi pour certaines femmes de retrouver une certaine liberté?
Tout à fait, c'est absolument cela. Le hijab permet l'ouverture à une grande forme de liberté. Par exemple, je parlais donc de la réappropriation de la rue, mais également du monde du travail, au monde du sport. Donc en maintenant la séparation des sexes, mais également en arborant un vêtement adéquat. Donc toujours qui consiste à ne dévoiler du corps que l'ovale du visage et les mains.
Mais la différence est très nette avec les revendications féministes, ce que vous appelez le féminisme islamique. Ces revendications-là, quelles sont-elles?
Alors, ces revendications s'inscrivent un peu, disons, dans le même sens, mais vont beaucoup plus loin. Alors, il faut bien préciser que ce féminisme islamique est un mouvement qui est marginalisé à l'heure actuelle et encore fortement minoritaire. La complémentarité, progressivement, va s'élargir à la négociation d'une totale égalité. Alors, comment font-elles, hein ? Elles introduisent une exégèse des textes, une interprétation selon une vision moins androcentrée des textes sacrés. Bon, en arabe, cela s'appelle le tafsir, hein. Il faut savoir que ces femmes sont des théologiennes, hein, qu'elles maîtrisent évidemment parfaitement la langue arabe et qu'elles sont des théologiennes. Il faut dire que ce féminisme islamique s'apparente aux autres féminismes religieux, donc les féminismes juifs et chrétiens qui existent depuis un siècle environ, hein, et aussi les féminismes bouddhistes et hindous qui sont relativement récents. Il y a eu une influence, certes, si on veut être relativement objectif, hein, du féminisme, aussi de l'ère du temps, hein, mais c'est un féminisme quand même qui est très différent du féminisme séculier.
Nadine Webel, ce féminisme, aujourd'hui, il est représenté par quelle personnalité à travers le monde musulman et surtout dans quel pays se développe-t-il? Est-ce que c'est au Moyen-Orient ou est-ce que c'est plutôt dans d'autres pays plus lointains, aussi bien en Asie d'ailleurs qu'en Afrique?
Alors, la figure emblématique de ce féminisme est certainement la théologienne Amina Wadud, qui s'est fait connaître il y a une dizaine d'années, lorsqu'en 2005, elle a présidé une prière devant une assemblée mixte. Il faut savoir qu'en islam, présider une prière, donc c'est le rôle de l'imam, hein, n'est pas possible aux femmes, plus particulièrement lorsque l'assemblée est mixte. Alors, c'est un argument que les féministes islamiques revendiquent. Elles revendiquent le fait de pouvoir devenir imam. La nébuleuse dont je parlais auparavant, non. Non, elles estiment que c'est une interdiction dans l'islam, donc on s'y tient. Mais le féminisme islamique, certaines figures de ce féminisme, certaines théologiennes, dont Amina Wadud, hein, commencent à analyser, à interpréter des versets coraniques comme allant dans le sens d'une non-interdiction de ce rôle d'imam pour les femmes. Alors, vous avez d'autres pays, comme par exemple la Malaisie, qui est donc un des pays qui a vu l'émergence de ce courant, déjà à partir de 1987, avec les Sisters in Islam, qui sont devenues par la suite une ONG et qui ont beaucoup œuvré à l'introduction, disons, d'un traitement plus égalitaire dans les tribunaux religieux. Mais il faut quand même préciser que les Sisters in Islam en Malaisie s'opposent en quelque sorte à l'islam officiel. L'Afrique du Sud après l'époque de l'apartheid, où on était particulièrement sensible à toute forme d'inégalité.
L'Iran également,
mais je pense qu'on a un peu tort de penser que le féminisme islamique vient essentiellement de l'Iran. Effectivement, il y a eu, disons, dans les années 80, une partie des femmes musulmanes pratiquantes qui militaient pour leurs droits. Je pense notamment à la fille de Rafsanjani, parce qu'en Iran, le féminisme laïque, séculier, était très développé. Et il y a eu, il y a encore aujourd'hui aussi, une forme de d'antagonisme entre ce féminisme laïque, séculier, et les femmes qui revendiquent leurs droits. L'autre partie du monde où le féminisme islamique se répand massivement, c'est l'Occident et plus particulièrement l'Amérique du Nord, les États-Unis et le Canada, où de nombreuses personnes d'origine musulmane, donc venant de pays musulmans, réfléchissent à cette thématique qui, il faut que je le précise, s'inscrit dans la démarche des musulmans dits progressistes. Hein. Et c'est donc un courant plus global qui redéfinit l'islam dans une perspective réformiste, progressive, et qui inclut, bien entendu, le féminisme. C'est pour cela que je préciserai quand même qu'il y a aussi des hommes musulmans qui s'investissent dans cette démarche.
Merci Nadine Vebel. Je rappelle que vous êtes anthropologue et que vous enseignez à l'Université de Strasbourg.
Je vous remercie.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bucianti et Christian Brunel pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Christian.
Bonjour.
On commence avec vous Christian, puisque la loi légalisant des colonies construites sur des terres palestiniennes privées suscite de nombreux commentaires.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. La majorité des médias estiment que Benjamin Netanyahou a cédé au lobby des colons et de la faction la plus dure de sa majorité de droite, favorable à une annexion de la Cisjordanie. Selon le quotidien Haaretz, le Premier ministre a ainsi montré, je cite, ses faiblesses en approuvant ce texte auquel il était en fait opposé, sachant parfaitement que la Cour suprême annulera la loi pour éviter, je cite, qu'Israël apparaisse comme un État criminel aux yeux du droit international. Un commentateur de la radio militaire a lui aussi constaté que plus que jamais, c'est Naftali Bennett, le ministre de l'Éducation et chef du foyer juif, un parti nationaliste religieux, fervent partisan de la colonisation, qui donne le ton au gouvernement. Le quotidien Maariv a été encore plus loin, il a accusé Benjamin Netanyahou d'avoir délibérément provoqué une escalade militaire dans la bande de Gaza avec les islamistes palestiniens du Hamas pour détourner l'attention de Donald Trump de l'adoption de la loi avant la rencontre du Premier ministre avec le président américain mercredi prochain à Washington.
Et justement, à propos du président américain Donald Trump, Alexandre, cette semaine encore, le président est à la une des journaux arabes.
Oui, et c'est surtout la confirmation par une cour d'appel américaine de la suspension du décret de Donald Trump qui interdit l'entrée aux États-Unis à des ressortissants de 7 pays musulmans, dont 6 arabes, qui fait les gros titres. Alors la presse saoudienne, elle, met en relief une conversation téléphonique entre le secrétaire d'État de Trump et le roi Salman, qui vise à renforcer la coordination entre Washington et Riyad. Pour la presse du Golfe, il est clair que les relations avec la nouvelle administration sont meilleures que celles qui prévalaient du temps de Barack Obama. Obama, dans le rapprochement avec l'Iran, préoccupait les pays du Golfe. Toutefois, un éditorialiste du journal Panarab al-Haya se demande si les décisions à l'emporte-pièce de Donald Trump ne vont pas faire de lui le Saddam Hussein des États-Unis.
Alexandre, plusieurs journaux reviennent également sur les déclarations du pape François sur la Birmanie.
Oui, un pape qui défend la minorité musulmane des Rohingyas, torturée et tuée, selon le Saint-Père. Le sort de cette minorité en butte à des persécutions de la part de la majorité bouddhiste et de l'armée birmane est largement couvert par la presse arabe, qui estime que la communauté internationale n'est pas très préoccupé par ce drame. De quoi renforcer le capital de sympathie dont jouit le pape François dans le monde arabo-musulman. Un pape cité en exemple par l'éditorialiste Al-Quds Al-Arabi, qui critique les chefs religieux musulmans plus préoccupés par une application fondamentaliste de l'islam que par la tolérance et l'ouverture aux autres.
Christian, un sujet qui n'a rien à voir, les mésaventures de deux fleurons de l'économie israélienne ont fait grand bruit cette semaine.
Les médias ont effectivement accordé une large place à la grève des pilotes de El Al, la compagnie aérienne nationale, et à Teva, un énorme groupe numéro un mondial pour les médicaments génériques. Pour ce qui est de El Al, les journaux, les radios, les télévisions ont multiplié les interviews de voyageurs furieux d'avoir raté leur vol. Les pilotes ont en effet refusé de travailler pour protester contre la chute de plus de moitié de leur salaire lorsqu'ils n'ont plus le droit de voler à partir de 65 ans en attendant l'âge de la retraite à 67 ans. Pour ce qui est de Teva, qui fait aussi partie du patrimoine national, tout va également de mal en pis. Le patron a démissionné après de grosses pertes. L'action, considérée jusque-là comme un placement de père de famille, a perdu 60% de sa valeur. Et pour couronner le tout, le groupe est accusé d'avoir versé des centaines de millions de pots de vin à l'étranger.
Un mot encore de la presse égyptienne qui se fait l'écho d'une polémique sur le divorce, Alexandre.
Oui, la polémique qui a éclaté après un appel du président égyptien Abdel Fattah el-Sissi qui réclamait l'interdiction de la répudiation orale. Alors il suffit pour un musulman de dire trois fois « je te répudie » pour que le divorce soit effectif sans besoin de notarier officiellement l'acte. En 2015, l'Égypte a connu une explosion des divorces avec 178 000 cas enregistrés et autant, sinon plus, de répudiations orales. Mais le conseil des grands oulémas de la mosquée d'Al-Aqsa a rejeté l'appel du président en affirmant que la répudiation orale faisait partie intégrante de l'islam et ne pouvait donc pas être interdite. Une attitude qui a valu à Al-Azhar des attaques de nombreux intellectuels et éditorialistes qui l'accusent d'obscurantisme, une institution considérée jusque-là comme haute autorité morale de l'islam sunnite. Certains appellent même à un remaniement de la constitution qui donne de larges pouvoirs à Al-Azhar pour tous ceux qui concernent l'islam.
Et pour conclure, votre caricature de la semaine, Christian, elle évoque non seulement la prochaine rencontre Trump-Netanyahou, mais aussi la loi sur la colonisation.
En effet, le dessin du Haaretz montre trois juges avec les traits de Donald Trump siégeant dans ce qui est présenté comme la nouvelle Cour suprême israélienne, en train d'auditionner un Premier ministre très inquiet, en train de plaider pour sa politique de colonisation.
Merci Christian, merci Alexandre. Orient Hebdo est réalisé cette semaine par Jérémy Besset. Vous pouvez nous retrouver sur le site de la radio www.rfi.fr, rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. Si vous êtes à Paris mardi 14 février, sachez que le Sénat organise un colloque consacré à l'éducation et à la culture, au cœur des relations entre la France et le Maroc, avec la présence de nombreux présidents d'universités et directeurs de grandes écoles de part et d'autre de la Méditerranée. Samedi prochain, Orient Hebdo évoquera la vie quotidienne de la jeunesse palestinienne à Gaza. En attendant, passez une bonne semaine à l'écoute de RFI. Tout de suite, un nouveau journal.